Je pense que c'est ça la grande question sur la communauté, mais ça fonctionne pour des gens qui adorent jouer ensemble aux cartes, comme pour des gens qui viennent d'un même pays, comme pour des gens qui ont été exilés ensemble. Enfin, ça marche dans tous les domaines et à tous les étages, à tous les niveaux.
Dans votre roman, en fait, il y a deux personnages principaux. En fait, hein, il y a deux monstres. Alors, donc, un qui est plutôt un monstre de beauté, hein, qui serait plutôt un monstre de pas beauté. Et encore une fois, celui qui est le monstre de beauté est presque plus mis au banc. Enfin, en tout cas, est plus difficile presque à appréhender que celui qui est monstre de pas beauté, puisque lui trouve finalement une fonction en fait dans la communauté. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose d'important d'avoir une fonction en fait dans la société, dans une communauté? Et puis ce rapport aussi, parce que j'aimerais bien que vous en parliez un petit peu à la forêt, parce que je l'évoquais tout à l'heure, en fait, c'est un personnage qui se réfugie en fait dans la forêt, voilà. Pour
Je crois qu'il n'y a rien de plus important que trouver sa place dans un lieu ou dans un milieu. Dire ce qu'on est, c'est aussi dire la place qu'on a auprès des proches, auprès des siens, auprès de la famille, mais dans le travail. Si moi je me définis comme quelqu'un qui écrit des livres, et ma place c'est quelqu'un qui écrit des livres dans l'espace culturel francophone. Et je suis aussi la femme de quelqu'un, et je suis aussi la sœur de quelqu'un. Enfin, la place, elle nous définit, mais d'une manière, on n'imagine pas à quel point on est défini par la place qu'on prend dans tel ou tel espace. Et ça, j'en suis absolument persuadée. Et je pense d'ailleurs que c'est intéressant de penser sa propre vie ou ses propres émotions en fonction de la place qu'on occupe et en fonction de la place qu'on souhaite occuper. Parce que souvent, les deux ne fonctionnent pas ensemble. Souvent, les deux sont assez incohérentes. Et ensuite, dans ce texte, à propos de la forêt, en littérature, en cinéma ou en musique, en géographie aussi, la forêt, ça a toujours été l'endroit à la fois du danger, mais de l'exploration. Ça a toujours été l'endroit des créatures, de la magie. C'est l'endroit de la métamorphose. C'est là où tout est possible, la forêt. C'est là où tout est caché, c'est là où la nature reprend ses droits. Et donc, celles et ceux qui décident d'aller en forêt, c'est celles et ceux qui décident de ne pas être visibles et de vivre autrement, et de grandir autrement et de faire autrement. C'est l'endroit des sorts, c'est l'endroit des... de la métamorphose, vraiment. Et pour moi, je pense que dans le livre, c'est une sorte de sas entre la vie du village et l'horizon qui est totalement inconnu, c'est-à-dire c'est le sas entre l'inconnu et le connu, c'est entre ce qui est normal et ce qu'on redoute. Entre les deux, il y a la forêt.
C'est bientôt votre anniversaire, vous avez largement moins de 40 ans, 10 romans, un recueil de nouvelles, un ouvrage de jeunesse, quelques essais et préfaces, dont un petit éloge du running, 4 recueils de poésie. Si vous étiez un homme au XXe siècle, qui pourrait s'appeler Georges G., vous auriez déjà 3 sièges à l'Académie française. Vous avez publié tout récemment sur les réseaux sociaux un poème, « Si tu es belle, tout ira bien ». Être une femme en littérature aujourd'hui, c'est un combat, une vocation déséquilibrée.
Alors aujourd'hui, en 2026, les choses ont bien changé. Il faudrait voir sur une année, mais maintenant on arrive presque à la parité en termes de livres publiés, écrits par des femmes, par des hommes, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Moi, je vois une vraie différence. J'ai commencé à publier des livres il y a une vingtaine d'années et il y a un énorme bond en avant, heureusement, qui a été fait parce que c'était beaucoup plus difficile il y a 20 ans. Il y a 20 ans, sur une année, sur des romans, hein, je ne parle pas de la poésie du reste, mais en tout cas sur des romans, je pense qu'il y avait une femme pour 5 ou 6 hommes. Maintenant, on est quasiment, je pense, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais quasiment égalité. On est peut-être encore un peu en dessous. Ce qui ne veut pas dire que les femmes vendent autant de livres que les hommes. Ça, c'est encore autre chose. Néanmoins, les plus grandes vendeuses en France actuellement, les 3 premières sont des femmes. Il faut quand même garder ça aussi en tête. Donc, quelque chose change. Après, il y a toujours l'idée qu'il y a une littérature dite féminine faite pour les femmes et une autre plus sérieuse qui serait écrite par les hommes et qui parlerait aux hommes et qui parlerait pas des problèmes de bonnes femmes. Ça existe toujours. Donc ayant connu une vraie évolution et ayant connu ce que c'était parfois d'arriver sur des émissions de télé et d'entendre il nous fallait une plante verte donc vous êtes là, je peux vous garantir que ça a beaucoup changé et qu'il y a beaucoup de choses qui se faisaient il y a 15 ans qui ne se font plus et qui sont interdites aujourd'hui. Après, on n'est pas encore au point d'équilibre, on n'y est pas, mais ça va très vite, ça évolue dans le bon sens très vite.
Tant mieux. En astrologie chinoise, vous êtes cheval de métal.
Je ne savais pas, je vous remercie de me l'apprendre.
Voilà. Vous narrez souvent vos déboires de train sur les réseaux, Est-ce une source d'inspiration pour vous? Est-ce que vous publiez des poèmes et récemment vous avez lancé un atelier d'écriture en ligne? Je précise que je ne suis pas encore inscrit parce que je ne voulais pas faire genre avant l'émission, hein, mais bon, je ne vais pas tarder à le faire. C'est important pour vous que les gens puissent lire partout, vous écrire, transmettre? Enfin, vous êtes dans une logique de transmission quand même déjà?
Je pense que ce qui a fait que moi j'ai écrit des livres et que c'est mon métier aujourd'hui, c'est parce que j'en ai lu et parce que des gens m'ont mis des livres entre les mains, parce que j'ai entendu des gens lire à voix haute, parce que j'écoutais des émissions de radio. Donc, je pense que ce travail-là de transmission, il est extrêmement important. Si moi, je n'avais pas eu ça, je n'aurais jamais fait ce métier-là.
Or, je rappelle quand même que vous avez publié votre premier livre, a été publié, vous aviez 16 ans.
Tout à fait, oui. Merci de le rappeler. Ça ne me rajeunit pas, tout ça.
Non, mais
ce que je veux dire, c'est que j'ai eu la chance d'avoir des livres à la maison, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui m'ont transmis certains textes, d'avoir accès au cinéma, à la musique, aux textes. Et donc, si à mon petit niveau, je peux proposer des espaces de lecture, d'écriture, de conseils, ce serait vraiment malhonnête de ma part de ne pas le faire, puisque d'autres l'ont fait pour moi. Et je pense que c'est ça, c'est qu'à un moment donné on m'a donné beaucoup et je pense que sur tout ce qu'on m'a donné je peux à mon tour en partager un peu, voire la totalité.
Alors vous écrivez un peu sous toutes les formes, vous avez quand même des romans qui amènent des visualisations d'images, en fait, qui mènent l'esprit un peu à visualiser un peu les choses. Je crois que vous avez fait un bac cinéma.
Oui. Voilà. Tout à fait.
Celui-là, vous l'avez fait.
Bah
vous
l'avez oui, fait. J'ai eu, ouais, tout à fait.
Est-ce que ça vous a tenté déjà ou ça vous tente, alors je précise, ce n'est pas un appel du pied encore que, d'adapter en fait vos romans ou d'avoir une écriture scénaristique pour un film, voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui vous titille?
En réalité, moi j'ai commencé par faire du cinéma, par faire des études de cinéma. Donc de mes 14 ans jusqu'à mes 20 ans, j'étais vraiment persuadée que mon métier ce serait de faire des films ou d'en écrire. Néanmoins, j'ai compris quelque chose aussi à ce moment-là, c'est que la manière la plus rapide et la plus efficace de raconter des histoires, et la moins chère, c'était de les écrire. Et donc en écrivant des scénarios, je me suis dit, mais peut-être que, en fait, mon truc, c'est le roman. Et c'est comme ça que j'ai, on va dire, j'ai changé de direction. Donc maintenant, comment dire, je suis toujours quelqu'un qui adore aller au cinéma, qui est très cinéphile, j'adore ça. Et je crois qu'il y a beaucoup de mon apprentissage cinéphile dans mes romans et dans mon écriture. Néanmoins, quand des textes sont achetés par des maisons de production, par exemple, je ne souhaite pas participer à la réalisation du film parce que je considère qu'il y en a dont c'est le métier. Et moi, j'ai décidé que ce ne serait pas mon métier. Et mon métier, c'est d'écrire l'histoire, moi, simplement.
Oui, je parlais d'écriture de scénario.
Hein. Oui, l'écriture de scénario, aujourd'hui, il faut s'y mettre à plusieurs. Et puis, il y a plein de gens qui vous relisent. Et puis, il y a plein de... Alors que les livres... Ah, les livres, c'est autre chose. En fait, pour moi, il y a quelque chose de tellement essentiel et de tellement d'aller au cœur du texte et de l'histoire avec le roman ou avec les poèmes que je suis devenue un peu snob et j'ai pas envie d'avoir 12 000 personnes qui me donnent leur avis. 3 personnes, ça me suffit amplement avant que le livre sorte.
Alors là, vous êtes un peu sur la route, beaucoup quand même.
Oui,
hein. Vous étiez donc au festival Terre de Parole aujourd'hui et hier à eux dans le cadre d'une proposition artistique poétique. Vous serez demain à
Caen.
À Caen. Ouais. Je pensais jamais dire ça, hein, mais si vous avez le bonheur d'être à Caen demain, Cécile Coulon sera dans l'après-midi en dédicace au Festival Époque sur le stand d'Eureka Street. Voilà, bon, je l'ai dit, c'est fait. Comment dirais-je, donc ça vous prend quand même beaucoup, beaucoup de temps. Enfin, oui. je suis les péripéties SNCF de votre affaire. Alors, la question que je voulais poser tout à l'heure, est-ce que c'est une source d'inspiration pour vous, le train?
Parce que, ah oui, ouais. En fait, je prends beaucoup le train, j'adore ça. Et j'adore ça aussi parce que très franchement, j'adore regarder comment les gens se comportent dans le train. Je trouve ça fabuleux. Enfin, depuis le Covid, les gens font n'importe quoi dans le train. Mais c'est génial. Enfin, une fois qu'on est parti du principe que c'était une source d'inspiration et pas une source d'énervement, c'est incroyable. Mais il faut quand même passer le cap de se dire là, ça va me saouler pendant 3 heures, mais peut-être que je vais en sortir quelque chose de bien. Non, mais c'est vrai que le train, il y a plusieurs choses. D'une part, le mouvement du train de balancier me permet d'avoir du temps pour écrire, pour lire. Pour m'inspirer. Ce que font les gens, ça me permet de faire des trucs drôles sur Internet. Et puis surtout, je pense que c'est encore un des endroits où on peut croiser tout le monde, tous les milieux, toutes les langues. Et ça, c'est quand même aussi intéressant. Enfin, je sais pas, moi j'adore écouter les. Enfin, je suis désolée de le dire, mais j'adore écouter les conversations des gens dans le train. Enfin, je trouve ça passionnant. J'adore ça, quoi. Parfois même, quand ça s'arrête, j'ai envie de dire, attendez, moi, ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Je veux savoir pourquoi vous êtes séparés, je veux savoir pourquoi votre soeur ne vous parle plus. Enfin, je suis dans la conversation, en fait. Et vraiment, Donc, non, moi, le train, franchement, bravo à la SNCF, quoi. Pour tous ces retards qui nous permettent de savoir ce qui se passe dans la vie des autres.
C'est noté. Et donc justement, donc vous êtes là, ce qu'on appelle un peu en promotion quand même. Oui. Hein, voilà. Est-ce qu'il y aura un fond du puits 3, c'est-à-dire est-ce que vous êtes encore sur ce cheminement ou est-ce que vous êtes déjà en
fait j'ai pas mal d'histoires à raconter dans ce fond du puits. Je pense que sur le prochain livre, j'ai envie de rester dans ce village, mais peut-être d'avancer un peu en époque. Donc je ne sais pas. J'ai très envie d'y rester en fait. Moi, j'y suis bien. Après avoir, c'est une décision aussi que je prends avec mon éditrice. C'est aussi une décision que je dois prendre avec moi-même en écrivant. S'il n'y a pas un moment donné, je vais avoir envie de voyager un peu avec mes personnages. Mais pour l'instant, l'idée, c'est d'y rester, oui.
Mais alors, ce fond du puits, moi, j'ai entendu quelque part, c'était pas une inspiration spécialement auvergnate, si.
Pas du tout.
Ouais, c'est ça.
Hein, non, pas du tout. C'est plutôt une inspiration picarde,
ouais,
pour être exact.
Ouais, ça, c'est alors, dur à dire ici. Hein,
c'est très dur à dire. Ouais, j'ai cru comprendre. Ouais. Mais je pense que je vais sortir avec mes bras pas cassés. Ça
non,
va.
Non,
aller.
Non.
J'ai passé un peu de temps en Picardie. Et un jour, quelqu'un m'a dit tu vas faire la promenade du fond du puits. Et vraiment, tout de suite, quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit tiens, ça ferait soit un très bon titre de poème, la promenade du fond du puits, soit un très bon nom pour un village. Et c'est devenu le nom du village. Ça s'est passé comme ça.
Comme quoi, il y a vraiment des idées reçues. Hein. Il faut aller en Picardie parce que ça peut
n'hésitez
donner des
choses. N'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à en revenir.
Ouais, c'est ça aussi. Justement, sur l'écriture, là, parce que vous alternez en fait, principalement en roman évidemment, mais vous alternez quand même beaucoup poésie aussi, notamment sur les réseaux sociaux. Oui. C'est quoi la différence pour vous ? Enfin, qu'est-ce qu'il y a de plus, peut-être, je sais pas, de plus intime ou de plus, enfin, de différent en fait dans l'écriture poétique et dans l'écriture romancière ?
Alors les poèmes ne parlent que de moi, ouais. Et les romans ne parlent que des autres.
D'accord.
C'est-à-dire que les poèmes, c'est de l'autofiction absolue. Enfin, je ne parle que de choses, soit que j'ai vécu, soit que je ressens, soit qu'on m'a raconté, tandis que les romans, c'est de la fiction, quoi.
Oui, voilà. C'est vrai.
Ouais.
Non, on est d'accord. Donc revenons un peu sur le roman, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Dans ce roman, il y a quand même aussi une question d'évocation de la frontière, de l'altérité, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est quand même aussi très profondément. Une étude sur sur la différence, sur l'altérité, quoi. Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez vraiment voulu mettre en avant sur cette question-là ou...
En tout cas, moi, la première question, c'était vraiment celle du regard qu'on porte. C'est-à-dire, la première chose qu'on voit de quelqu'un, c'est son corps, c'est son visage. Alors, on pourrait dire aujourd'hui, c'est moins vrai puisqu'on communique les uns avec les autres via des applications, via des messages. Et d'ailleurs, j'aurais aimé naître plus tard, parce que moi qui écris des livres, je pense que si j'étais sur des applis de rencontre, mais j'aurais des matchs dans tous les sens, quoi, parce que je sais écrire. Alors qu'à mon époque, il a fallu se présenter physiquement, quoi. Donc je pense que si j'étais née plus tard, ça aurait été plus facile, ma vie amoureuse. Je sais pas pourquoi je raconte ça ici, mais le fait est
alors
que...
Alors, c'est une bonne question.
C'est une bonne question. Mais non, mais parce que ce qu'on voit normalement en premier lieu de quelqu'un, c'est son visage et son corps. Néanmoins, maintenant, nous sommes dans un moment où on apprend les autres à travers des écrans, globalement.
Ouais, mais tout est faux, en fait, quand même.
Alors, tout n'est pas faux, puisque ce qu'on montre faux de soi, c'est une part de notre vérité. Et vous avez 4 heures pour répondre.
Ouais.
À...
pas tout à fait.
Parce que je pense très simple, pour y passer vraiment du temps, ce qu'on décide de... camoufler ou de ne pas camoufler, de cacher ou de mettre en valeur, c'est aussi l'image qu'on a de nous-mêmes. Ce n'est pas que du faux. Je pense même qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de très grande sincérité, de très grande naïveté. Mais ce qui, moi, m'intéresse dans les réseaux sociaux, c'est à quel point ce qu'on décide de flouter, de cacher, de filtrer, ce que ça dit de nos angoisses, de nos peurs, de nos complexes. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Et à partir de là, moi, ça me permet de faire des personnages. Et tout ça pour dire que, comme ce qu'on voit normalement, c'est vraiment le visage, moi, ce qui m'intéresse dans la question de l'altérité, c'est à quel point on est capable d'accueillir ce qui nous rebute. Qu'est-ce qui fait qu'on est capable d'accueillir dans sa vie, d'accueillir dans un moment social, dans un moment amical, quelqu'un ou quelque chose qui nous dégoûte. Parce que l'altérité, c'est ça. L'altérité, c'est pas juste être ami avec des gens et bien s'entendre avec ses voisins. L'altérité, elle commence très sincèrement quand il faut passer du temps avec une personne ou un animal ou dans un lieu qui n'a pas les mêmes idées que nous, qui nous fait peur, qui nous angoisse, qui nous énerve. Là, on parle d'altérité. Dans la difficulté, l'altérité, elle n'existe que dans la difficulté et elle est mise à l'épreuve dans la difficulté. Quand faire un barbecue avec ses amis, il n'est pas question d'altérité. Faire un barbecue avec ses amis et se rendre compte qu'il y a un ami qui, en fait, n'a pas les mêmes idées que nous, n'a pas le même bord politique que nous, dit un truc hallucinant, et continuer à faire le barbecue et discuter avec cette personne, là, on parle d'altérité.
Ouais, et ça, ouais. Ça devient... Bon. Ouais. Bref, on va pas...
Ça devient compliqué, ouais,
c'est ça. Bon, en tout cas, vous pouvez lire tous les romans, en fait, de Cécile Coulon, voilà, parce que vous allez trouver tout ce que vous voulez. Il y a plein de choses très intéressantes, il y a plein d'époques, d'endroits à imaginer. Donc ça, c'est super. Je le redis, et ça sera la dernière fois, si vous avez le bonheur d'être à Caen demain, vous pouvez voir Cécile Coulon l'après-midi en dédicace au festival Époque sur le stand Eureka Street. Voilà, Cécile Coulon, un immense merci pour votre passage dans Les Pieds dans la Lune, avec une toute dernière question existentielle tout de même. Vous êtes plutôt chocolat noir ou chocolat au lait ?
Chocolat noir.
Chocolat au noir. Donc vous repartirez avec des petits nounours, chocolat noir.
Je suis ravie d'être venue. Merci beaucoup. Ah, très sympa.
Ces prochaines semaines, il y a des événements qu'il ne faut pas manquer sur l'agglo de Rouen. On va se rafraîchir, Sonia, sous la pluie avec une exposition au Musée des Beaux-Arts de Rouen.
Tout à fait, la pluie, lorsqu'elle advient, transforme le paysage. Elle voile la lumière, brouille les limites de la terre et du ciel, recouvre toute la surface, imprègne l'air et la terre. Comment représenter cet élément translucide et incolore qui voile le paysage et obscurcit l'horizon ? Un magnifique défi pour des artistes en quête de renouveau technique, artistique et esthétique, à travers 150 œuvres magistrales et en dialogue avec un volet scientifique au pavillon des transitions. La métropole Rouen-Normandie vous invite à une exploration sensible à la fin du XVIIIe siècle, aux défis climatiques contemporains. Le parcours de l'exposition du Musée des Beaux-Arts de Rouen s'organise en trois séquences, chacune éclairant différentes facettes de la pluie et de sa représentation. L'artiste face à sa pluie, face à la pluie, pardon, ces séquences retracent l'apparition progressive du motif pluvieux dans la peinture de paysage, l'influence des estampes japonaises et l'éveil d'une sensibilité météorologique du romantisme ou impressionniste. Vivre avec la pluie nous transporte au XIXe siècle où, au parapluie, événement imperméable transforme la vie urbaine. Les artistes saisissent alors les nouvelles attitudes, silhouettes et scènes de la vie marquées par la modernité naissante. La ville sous la pluie nous immerge dans un imaginaire moderne, reflets, miroitements, lumière et silhouettes mouvantes, peinture, photographie, où on y trouve une matière propice à traduire la fugacité, la solitude, la poésie urbaine. Voilà un peu la présentation officielle du musée. Maintenant, laissons la parole à Océane, membre de l'équipe de l'exposition, et c'est elle qui a le plaisir d'ailleurs de vous accueillir à l'entrée pour valider vos billets.
Je m'appelle Océane Bouilly, j'ai 19 ans et je travaille du coup au Musée des Beaux-Arts de Rouen depuis maintenant 2-3 mois. Je travaille pour l'exposition Sous la pluie, qui est sortie du coup en avril. C'est une exposition qui de base a été à Nantes et il me semble qu'elle va être dans d'autres endroits en France. C'est une exposition qui est assez intéressante, assez originale pour son cadre avec le thème, donc sous la pluie. On a pas mal d'œuvres qui viennent du monde entier, mais il y a quand même une partie immersive avec l'odorat, le son, pas mal de voix. Il y a même par exemple une dame de Météo France qui fait des bulletins météo dans notre exposition. Donc ça a été assez préparé et ça permet de prendre tous les âges, donc même les enfants. Voilà, le fait de voir simplement la pluie, le fait de voir un tableau, l'expression, l'émotion, ça peut permettre de voir beaucoup de choses et c'est quand même assez intéressant.
Alors maintenant, ce que je vais vous dire de cette expo, c'est qu'elle est vraiment accessible à tous les âges, très interactive, visuelle, sonore, odorat, tout ça. Je ne vais pas vous spoiler, mais j'ai adoré pouvoir écrire mon expérience et mes souvenirs de la pluie dans l'une des salles. C'est une invitation à découvrir des textures, des odeurs et à ressentir avec émotion ce que la pluie débloque comme souvenir en vous. Il y a même une collection de parapluies assez rigolos qui est exposée. Je conseille vraiment aux petits comme aux grands de profiter de cette expérience sensorielle qui vous prolongera dans un... dans une époque à la découverte de notre rapport à la pluie. Pour rappel, l'entrée est gratuite pour les moins de 26 ans et les étudiants. Le plein tarif est à 10 euros et le tarif réduit à 7 euros. Alors profitez-en et elle sera là jusqu'au 20 septembre au Musée des Beaux-Arts de Rouen.
Merci Sonia, on va y aller. Et maintenant, direction Elbeuf. On s'envoie en l'air hein, tout le week-end à Elbeuf sur le champ de foire, devant le Cirque Théâtre avec des spectacles gratuits de haute voltige, Raphaël.
Oui, tout à fait. Le Cirque Théâtre d'Elbeuf prendra... Le Cirque Théâtre d'Elbeuf prendra son envol le 30 et 31 mai 2026 à l'occasion du spectacle 50 minutes sans toucher terre durant le quartier d'été. Situé sur la place du Champ de Foire, au croisement de la rue Augustin-Henri et rue de Solferino, il est l'un des 8 derniers cirques en dur en France. Ce spectacle est une occasion de valoriser son architecture unique et ses acteurs locaux. Nous rencontrons Colline Garcia, directrice artistique de la compagnie SCOM. Elle est au milieu des Elbeuviens depuis le 4 mai. Elle nous explique en quoi consiste cette résidence d'artiste et cette rencontre avec le territoire.
Alors c'est un projet de territoire, donc ça veut dire qu'on vient avec un spectacle qui est en cours de création. Il y a une partie de la journée où on travaille nous sur la création et il y a une partie de la journée où en fait on va être à la rencontre des Elbeuvins et Elbeuviennes et on va donner des ateliers, ce qu'on appelle des médiations autour du projet du spectacle. Donc là en l'occurrence le skate, l'acrobatie, l'écriture, l'illustration puisque ce sont des choses avec lesquelles on travaille dans la compagnie. J'aime beaucoup la transdisciplinarité, donc c'est ce que je développe. Et là, c'est vraiment ce qu'on met à profit pour faire ces rencontres et en fait tisser des liens avec les habitants et habitantes. Finalement, le plus important, c'est pas tant ce qu'on apprend, mais c'est comment on développe aussi notre lâcher prise, notre confiance en nous, l'envie d'aller voir et rencontrer d'autres gens. Et c'est ça qui me semble le plus important dans un projet comme ça.
50 minutes sans toucher terre, c'est le slogan de spectacle de Voltige Pigment. Spectacle gratuit, sous chapiteau, sur le champ de foire d'Elbeuf le 30 et 31 mai. Elle nous le décrit plus en détail.
Alors en fait, que ce soit sur le projet de territoire donc pour, autour de la création d'Hyperbole ou pour 50 minutes sans toucher terre, c'est le Cirque Théâtre d'Elbeuf qui programme ça. C'est deux choses très différentes. Ça arrivera après. Moi, je peux parler de Cirque Vos parce que je les connais. Mais après, ce n'est pas forcément en lien avec nous, mais ça va être un très beau spectacle. C'est un spectacle, du coup, 50 minutes sans toucher terre. Pourquoi le titre? Parce que c'est un spectacle de grands volants, donc des artistes qui ont passé d'un trapèze à un autre. C'est quelque chose de très impressionnant qui vient chercher vraiment des sensations presque ancestrales. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de l'inné. Et je pense que ça va être très chouette. C'est des copains, mais je ne l'ai pas encore vu.
Sur le cirque contemporain en général, quand on lit la manière dont la compagnie Cirque Vost se décrit, d'où son nom, version originale sous-titrée en langage universel, qui se lit avec les yeux, les oreilles et bien sûr avec le cœur. Peut-on dire que le cirque est le seul domaine du spectacle vivant qui est universel et compréhensible de tous? On écoute son avis.
Alors je dirais plutôt que l'art est universel et compréhensible de tous, en tout cas c'est ce qu'on souhaite faire, en tout cas moi en tant qu'artiste, c'est ce que j'aimerais faire, c'est-à-dire le lien entre ce que je vis et ce que je ressens de la société et ce que je veux transmettre aux gens. Moi, j'ai l'impression d'être juste un porte-parole. Ce qui est évident, c'est qu'avec le cirque, il y a cette possibilité d'aller chercher quelque chose qui est vraiment de l'ordre un peu des jeux de l'Olympe. Quoi. On vient nourrir un peu ses sens intérieurs, son questionnement sur la peur, sur la mort, si ça vient chercher des sentiments très forts. Après, je crois qu'on peut aussi retrouver ça dans plein d'autres arts, si tant est que les personnes qui proposent les projets fassent en sorte que ce soit universel et compréhensible.
Dans votre compagnie, tout le monde parle français ou y a-t-il des Européens ou des personnes de
l'Amérique? On a une personne, alors pas actuellement avec nous, mais on a une personne qui vient des Pays-Bas, mais qui n'est pas là sur les semaines du projet de territoire. Donc là, on est toutes, on parle toutes français et on est toutes francophones.
Merci beaucoup pour cette interview.
Merci à vous.
C'est tout le week-end sur le champ de foire à Elbeuf devant le Cirque Théâtre. La programmation, c'est sur le site internet du Cirque Théâtre d'Elbeuf. Des spectacles vraiment exceptionnels. On vous recommande d'y aller. C'est gratuit. C'est vraiment très, très chouette. Et effectivement, vous pouvez y aller vraiment sans... Bah, même le public allophone peut y aller. Du coup, c'est du cirque. C'est universel. Donc vraiment, on vous recommande d'y aller. Ça démarre demain à Elbeuf. On va vous parler aussi dans les choses qu'il ne faut pas manquer. On va vous parler de gastronomie, de personnes réfugiées, d'insertion pro et de restaurants rouennais avec la seconde édition de Refugee Food, un très beau projet d'insertion professionnelle en France dans la restauration. Donc pendant un service du midi ou du soir, le chef et son invité vont imaginer et cuisiner un menu ensemble. Et cette rencontre permet de soutenir les nouveaux arrivants dans leur projet. Nos amis et voisins immédiats Léo à table participent le jeudi 18 juin pendant le service du midi. Évidemment, on en reparlera sur la radio HDR. On vous préviendra et on ira faire traîner nos micros dans les cuisines. Hier soir, on a suivi aussi quelques stagiaires d'éducation et formation sur les bancs de l'église Saint-Vivien pour un concert exceptionnel de la Maison Illuminée, un concert de musique baroque. Ils sont arrivés en France depuis peu et ils apprennent le français. Amy a recueilli leurs impressions.
Des notes de musique qui s'élèvent sous les voûtes de pierre et des visages illuminés par l'émotion. Hier soir, l'église Saint-Vivien à Rouen accueillait le concert d'Oswald Salaberger, Anne Dumont et Lorraine Elstrofer. Un moment suspendu, mais surtout un point de rencontre. Dans le public, plusieurs stagiaires d'éducation et formation, qui apprennent actuellement le français, étaient venus savourer la musique. Sous les voûtes de pierre de l'église Saint-Vivien, nous avons recueilli l'avis d'Ala et sa fille Naya, tous deux venus de Syrie, ainsi qu'Abou Bakar, un jeune Soudanais et futur menuisier.
J'ai bien aimé. Perso, je suis pianiste, donc j'ai fait du piano. Okay, super. Je connais la musique, on peut transformer plein de messages par la musique. Ce que moi, j'ai bien aimé.
Ok, super.
الحفلة كثير حلوة كانت الموسيقى هاي أول مرة أنا بسمعها هيك وبستمتع فيها لهالدرجة كون نايا بتعزف على البيانو وبتعزف هيك مقطوعات كلاسيكية يعني عدة أنواع من الموسيقى فأنا كثير بستمتع بهاي المسألة واليوم كانت الحفلة كثير رائعة كثير ممتازة في تناغم مش طبيعي بين العازفين بالكمان بالبيانو بالأوترو الماشين الثاني وي يعني تري 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 بيان
si vous aviez trois mots à choisir pour décrire un peu l'ambiance et toute cette soirée ce serait
lesquels moi je dis classique connexion entre les musiciens et un moment de confort
جمال رقة مشاعر Machar en français emotion.
Vous avez l'habitude d'écouter un peu ce genre de musique c'est vraiment
De temps en temps.
Ouais, avec les pianos.
Oui.
Oui.
Okay,
ouais. Ouais, c'était très bon et c'était sympa parce que ça nous a appris quelque chose qui a. Ça nous a offert d'intégrer avec les gens et tout ça. Et c'était sympa. On a découvert la culture. Non, c'est pas tout niveau. Parfois, j'écoute et c'est pas comment on appelle ça, comment on dit. C'est pas tout à fait, mais parfois.
Là, qu'est-ce que t'en as pensé, l'ambiance, etc. Est-ce que c'est un joli moment de détente?
Oui, c'était un joli moment de détente et ça nous a appris beaucoup de choses. Pour nous, c'est important de venir et découvrir la culture et apprendre des nouvelles. Pour l'intégration et pour apprendre la langue et pour l'améliorer aussi, c'est bien pour nous.
Pour eux, chaque chanson est une nouvelle clé pour apprivoiser notre langue. On leur souhaite bon courage dans leur apprentissage.
Oui, et on a une pensée particulière pour nos amis et voisins d'éducation et formation dans la tourmente en ce moment, impactés par une baisse des crédits. Les formateurs et animateurs mènent pourtant un travail essentiel auprès de personnes allophones qui ont fui leur pays, parfois avec leurs enfants, syriens, ukrainiens, haïtiens, soudanais, égyptiens, nigérians. Tous ont une curiosité réelle pour la culture française et sa langue. Et maintenant, en vrac, ce qu'il ne faut pas louper, Benoît.
Alors, en vrac,
vrac. Ah, en vrac, attends.
En gros vrac, très vite.
On a le droit, en fait, de créer des nouvelles rubriques. Donc oui. Là, on a créé une rubrique qui s'appelle « Faire un nœud à son mouchoir pour ne pas oublier ».
C'est une expression qui est tombée en désuétude. Personne ne la connaît. Il n'y avait que toi, Benoît.
C'est faux. Donc moi, je vous conseille de ne pas oublier d'acheter les places pour le concert des Molotov le 30 septembre au 106.
Iman.
Moi, je vous conseille d'aller au Festival des musiques brésiliennes qui aura lieu le week-end prochain du 5 au 7 juin.
À Marom, exactement.
Moi, du coup, je vous propose d'aller voir la Cathédrale en Lumière qui commence ce soir et avec demain un DJ set. Alors, allez-y.
Ouais, c'est gratuit. C'est à 21h30, je crois. Non ?
Ouais, c'est gratuit. Puis le DJ set, demain, c'est 22h15, mais ce soir, c'est
23h. Ok. Raphaël.
Alors moi, je vous conseille d'aller à la Fête de la Musique qui se déroulera du 20 au 21 juin. Elle mêle DJ set et concert live, place de l'Hôtel de Ville à Rouen.
Amy.
120 artistes venus des quatre coins de la France se réunissent le 6 et 7 juin rue Saint-Gilles pour le festival Larsen.
D'accord, alors moi je vous conseille ce week-end, demain et dimanche, au-delà du spectacle d'Old Voltage à Elbeuf, vraiment que je vous recommande, le festival Africa Boom, place de la Pucelle à Rouen, invité d'honneur la Côte d'Ivoire, au programme un marché africain et une expo.
Et bah moi en fait je vais en profiter pour conseiller un autre truc encore.